Je vous remercie beaucoup pour cette présentation, un peu excessive. En tout cas, il est certain que le sujet de Rome, capitale du cinéma, cet âge d'or de Cinecittà, va évidemment... De combien de temps puis-je disposer?
25 minutes,
peut-être un peu moins. Bon. Je voudrais d'abord faire une toute petite parenthèse et revenir en arrière à une intervention hier de Paolo Carile, où il évoquait la figure de Ricciotto Canudo. Canudo, parmi les historiens du cinéma, est une figure de référence. Canudo est l'inventeur de l'expression « septième art », puisqu'il avait imaginé une espèce de danse des arts, les arts du temps, les arts de l'espace, et englobant le tout, le cinéma, qui en était le septième. Et l'expression a été lancée par lui en 1912 ou 13. Je parle là de mémoire sur des notes que je n'ai pas sous la main. Et il crée une revue qui s'appelle la Gazette des Sept Arts, qui va être essentiellement, ce n'est pas quelqu'un qui ne s'est intéressé, comme nous le disait hier Paolo, qu'au cinéma, mais qui a fait finalement du cinéma le centre de son activité, puisque immédiatement après la guerre, il crée le club des amis du septième art, qui s'appelle, si on prend que les lettres, ça fait Casa, la Casa, et ce club des amis du septième art, il l'installe chez lui, avenue du 4 septembre, où il reçoit un très grand nombre d'artistes, de sculpteurs, Mal Stevens, Colette, qui vient assez régulièrement à ces réunions du Casa, et il va également réussir à introduire dans les éditions de l'immédiate après-guerre le cinéma au Salon d'automne. Donc c'est quelqu'un qui réussit à faire reconnaître, à côté des arts traditionnels, dirons-nous, qui fait reconnaître le cinéma, qui lui fait obtenir une place importante, puisque dans le cadre de ces salons d'automne, il organise des conférences, il organise des projections, on a des programmes très détaillés de cette animation que Canudo réussit à introduire ainsi au... on peut remarquer en passant qu'on est à peu près dans les mêmes chronologies que Modigliani. Et qu'il y a au moins un autre rapport avec, en tout cas avec, par certains aspects également, le destin de Canudo. Canudo, lui, par contre, qui n'est pas dans un état de santé permettant de ne pas accueillir sa demande, fait la guerre de 14-18, enfin demande à être mobilisé. Il est mobilisé, il est blessé, et il meurt d'ailleurs prématurément en 1923 des suites de ses blessures de guerre. Donc lui aussi a une vie qui est brutalement interrompue. Et je terminerai en disant qu'il était né à Bari et que les Parisiens le surnommaient le Barisien. Le Barisien, parce qu'il venait de Bari, et qu'il était devenu un peu une figure du Paris littéraire, du Paris culturel des années d'après-guerre. Voilà, je ferme cette parenthèse en rappelant qu'il existe un très beau recueil de ses écrits publié par Arte Édition il y a une dizaine d'années, et c'est un ouvrage encore aujourd'hui tout à fait passionnant de par le contenu des réflexions de Canudo sur le cinéma. Alors, évoquer l'âge d'or de Cinecittà, en fait, j'ai pris un peu Cinecittà comme emblème de ce développement du cinéma italien, mais en fait, c'est tout simplement l'âge d'or du cinéma italien, âge d'or que l'on peut placer dans les années 60-70. C'est vraiment le grand moment où le cinéma italien a un rayonnement international absolument considérable. Je rappelle qu'il glane un certain nombre de palmes d'or, à commencer par Miracle à Milan de Sica, mais ensuite il y en aura toute une série jusqu'à cette période exceptionnelle se termine en 77 avec la palme d'or des frères Taviani, L'Arbre aux Sabots. Non, je dis L'Arbre aux Sabots parce que c'est celle de l'année suivante. En 77, c'est Padre Padrone, et en 78, c'est L'Arbre aux Sabots d'Olmi, mais en 72, il y avait eu Rosi et Petri pour La classe ouvrière va au paradis et l'affaire Mattei. Bon, tout cela place le cinéma dans un éclairage tout à fait exceptionnel. Cette puissance du cinéma italien... Bon, il faut donc un petit peu la raccrocher, puisqu'on a parlé de Cinecittà. Les studios ont été fondés en 1937, en pleine période fasciste, et d'ailleurs ils sont inaugurés Ils sont inaugurés par Mussolini lui-même, qui vient en avril 1937 inaugurer les studios dont il avait d'ailleurs déjà posé la première pierre. En fait, il vient deux fois, une première fois poser la première pierre, à l'automne 35, et les studios sont d'ailleurs construits à marche forcée. En 18 mois, les studios sont faits, quoi. La construction commence à l'automne 35 et en avril 37, ils sont inaugurés. Je précise d'ailleurs qu'avant cette inauguration officielle d'avril 37, on avait déjà commencé à les utiliser. À la fin du tournage d'un des grands films de reconstitution historique et Scipion l'Africain, une partie de Scipion l'Africain a été tournée dans les studios de Cinecittà qui n'étaient pas encore tout à fait achevé et qui, en tout cas, n'était pas encore inauguré. Bon, ces studios sont un peu l'emblème de cette énergie qui se déploie autour du cinéma. Il faut dire que le régime fasciste, qui a beaucoup de défauts, d'erreurs, on en a vu une énorme tout à l'heure avec la déclaration de guerre à la France, mais en tout cas le régime fasciste est un régime, en tout cas il y avait dans le personnel politique des hommes éclairés qui ont compris que l'industrie du cinéma en Europe ne pouvait fonctionner qu'avec l'aide de l'État, parce que les bassins de population, à l'inverse du cinéma américain, les bassins de population n'étaient pas suffisants pour amortir les coûts de production. C'était mathématiquement, économiquement impossible. Et la seule manière d'amortir les coûts, c'était soit de recevoir des aides, et c'est la politique qu'adopte le régime fasciste, en mettant en place tout un système très, très sophistiqué d'aide à la production, mettant en particulier à disposition du cinéma ces studios de Cinecittà. Et l'autre possibilité d'amortir les coûts, c'est d'avoir une diffusion internationale. C'est-à-dire, on ne peut pas établir une économie saine si on ne peut compter que sur le marché intérieur. Donc, cela va nous amener très naturellement à ce qui sera un peu au cœur de mon intervention de ce matin, c'est-à-dire la politique de coproduction, parce que la politique de coproduction, l'arrière-plan économique de la coproduction, c'est pas seulement d'avoir un financement qui ne provient pas d'un seul pays, mais qui est proposé, mis en place par une association. Et le meilleur exemple, ce seront précisément les coproductions franco-italiennes, mais quelquefois il y aura des coproductions franco-italo-espagnoles ou franco-italo-allemandes. Donc il y a des systèmes parfois complexes de coproduction. Ces coproductions donc ne sont pas seulement nées de la possibilité de réunir des capitaux, mais surtout elles ont comme finalité de disposer d'un marché de diffusion plus vaste. On met à disposition, j'ai d'ailleurs ici la citation d'un producteur italien qui est Salvo D'Angelo, qui en 1948 dans le journal, dans l'hebdomadaire de la corporation cinématographique en France qui s'appelle Le Film Français, dès mars 1948, Salvo D'Angelo déclarait « L'union de nos efforts doit être féconde, efficace. Nos deux marchés peuvent n'en faire qu'un. Si notre expérience réussit, les producteurs de France et d'Italie se trouveront devant un marché de 10 000 salles qui permettront une rentabilité beaucoup plus grande et beaucoup plus régulière de leurs films. » Donc, c'est vraiment un objectif qui est d'abord un objectif économique, que de rassembler les capitaux au moment de la production, et puis dans toute économie du cinéma qui fonctionne bien, les recettes des films terminés permettent de financer les films qu'on entreprend. C'était d'ailleurs, là encore, une des idées de la politique fasciste, que de soutenir des sociétés de production qui aient une activité continue. Des sociétés de production qui produisent, diffusent, récupèrent l'argent lors de la diffusion des films et réinvestissent cet argent dans les films que l'on met en chantier. À l'opposé de notamment un mal qui a été fréquemment dénoncé dans l'industrie du cinéma français pendant les années 30, qui consistait à trouver de l'argent, à faire un film, à le diffuser, à récupérer des bénéfices et puis à dissoudre la société, quoi. Ne pas avoir justement cette politique continue, mais au contraire cette visée à court terme qui, alors elle évidemment, est une visée purement spéculative, alors que la production continue s'inscrit dans un travail dans la durée. Bon, la puissance, bien entendu, ce qu'il ne faut pas perdre de vue dans la cette politique de production, de coproduction, et dans la réussite de cette politique de coproduction, c'est que nous sommes dans une cinématographie qui est déjà, de par ses structures artistiques, une cinématographie particulièrement puissante. Le cinéma italien connaît, à partir de 1945, une sorte de d'éclosion qui s'est d'ailleurs en partie préparée dans les dernières années du fascisme. Que ce soit Visconti, que ce soit Rossellini, que ce soit De Sica, ce sont des cinéastes qui tournent des films comme Rome ville ouverte, comme Le voleur de bicyclette, comme La terre tremble, mais qui ont commencé à tourner dans les dernières années du fascisme. Donc le néo-réalisme, puisque c'est de cela dont il s'agit, n'est absolument pas une génération spontanée. C'est quelque chose qui s'est progressivement préparé pendant les dernières années de l'époque fasciste. Et même ceux qui n'ont pas tourné avant 1945 ont souvent déjà eu affaire avec le cinéma avant 1945. Par exemple, De Santis, qui est un cinéaste qui ne commence à tourner qu'à partir de 1946-1947, enfin 1946-1947, a quand même été l'assistant de Visconti lorsque Visconti tourne au Sessione. Donc tous ces gens se sont formés dans cette période, un peu étrange, mais quand on y réfléchit, ça peut se comprendre, se sont formés en fait dans les dernières années du fascisme, avec dans l'idée... Ça a été une poussée très très forte, justement, dans l'idée de réformer le cinéma italien. C'est-à-dire, ces gens avaient un objectif extrêmement précis, qui était de sortir le cinéma italien, entre guillemets, des téléphones blancs, c'est-à-dire de ces comédies d'évasion intemporelles, et de ramener le cinéma italien à la réalité. Donc dans le fond, par certains aspects, le néoréalisme est né comme réaction à ce qu'était le cinéma avant 1945. Et puis, à partir de là, la prolifération de, on peut dire, de génies dans les années 50, c'est Antonioni et c'est Fellini qui apparaissent. Puis, au tournant des années 60, alors là, la kyrielle de noms est absolument invraisemblable. Bolognini, Zurlini, Vancini, Rosi, Petri, Maselli, Ferreri, Olmi, les frères Taviani, Pasolini, Bertolucci, Bellocchio, Montaldo, Pontecorvo. C'est de gens qui ont commencé entre la fin des années 50 et le début des années 60. Donc il y a là, un peu comme dans l'histoire de l'art, est d'ailleurs rempli de ces épisodes tout d'un coup, dans des conditions qui ne sont pas toutes explicables par des raisons évidentes, on a une prolifération de talents, sinon de génies. Et j'oubliais en passant les tenants de la comédie qui font de la comédie italienne ce que l'on sait qu'elle est, Risi, Comencini, Monicelli, Emer, et quelques années plus tard, mais il est déjà scénariste avec les premiers, et Torre Scola, qui commence, lui, dans les années 60. Bon, donc c'est, d'un côté, il y a cette cinématographie italienne, avec ce très grand nombre de cinéastes. De l'autre côté, il y a une cinématographie française qui est également riche, mais peut-être pas, enfin si on faisait une comparaison point par point, on ne trouverait peut-être pas dans le cinéma français de la même période, c'est-à-dire de l'après-guerre et des années 50, une telle prolifération. Ce qui fait que peut-être, quand on va mettre en chantier cette politique de coproduction, qui est une politique officielle, voulue par les instances dirigeante. Il y a des accords de coproduction qui commencent à être signés à partir... Les premiers accords de coproduction sont signés en octobre 1946 par une volonté commune des responsables du côté français du CNC qui vient de naître, qui prend le relais d'ailleurs d'une institution née sous Vichy, qui était le COIC, le Comité d'organisation de l'industrie cinématographique. Et puis, du côté italien, il y avait toute la structure administrative mise en place par le gouvernement fasciste et qui, pratiquement, reste inchangée après 1945. Il n'y a pratiquement pas de modification dans l'organisation du cinéma, qui est placée sous le contrôle du ministère à l'époque du tourisme et du spectacle. En fait, c'est un sous-secrétariat d'État pour le tourisme et le spectacle, et dont le titulaire n'est autre qu'Andreotti, qui commence sa carrière comme figure de la démocratie chrétienne et qui commence sa carrière politique comme sous-secrétaire d'État au tourisme et au spectacle. Je précise simplement que il ne faut pas imaginer que ces sous-secrétaires sont des ministres de troisième niveau, qu'il y aurait les ministres, les secrétaires d'État et les sous-secrétaires d'État. Non, parce que dans l'intitulé italien, les ministres sont secrétaires d'État. Leur titre officiel, ils sont ministres secrétaires d'État. Donc, quand on n'est pas ministre secrétaire d'État et qu'on est un rang en dessous, on ne peut être que sous-secrétaire. Donc, Andreotti est sous-secrétaire d'État et c'est lui d'ailleurs qui rompra des lances assez violentes avec De Sica, lui reprochant dans ses films de donner une mauvaise image de l'Italie. Basta con i panni sporchi était la fameuse formule assez de linge sale à propos des films de De Sica tels que Andreotti les percevait. Bon. Donc, le système des coproductions se met en place et on va rapidement constater que c'est au milieu de difficultés. Il y aura d'ailleurs, je ne vais pas entrer dans le détail, il y a d'ailleurs de nombreuses modifications à ces accords de 46. Régulièrement, on essaie de les réadapter et notamment, quelque chose qui apparaît comme revenant constamment sur le tapis, c'est l'idée de faire en sorte que ces coproductions fonctionnent aussi bien du côté italien que du côté français. C'est-à-dire que le législateur s'aperçoit assez rapidement que les Italiens tirent un meilleur profit des avantages des coproductions que les Français. Et d'ailleurs, quand on regarde la liste des films, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de coproductions italo-françaises, c'est-à-dire où les capitaux sont majoritairement italiens, que de coproductions franco-italiennes. Dans l'esprit du législateur, il faudrait arriver à des coproductions égalitaires, 50%-50%, mais c'est très compliqué à mettre en œuvre parce que il y a l'aspect strictement économique, mais aussi l'aspect artistique. C'est-à-dire, le metteur en scène, on ne peut pas diviser la fonction de metteur en scène, où il est italien ou il est français. Pour les scénaristes, on va voir souvent des équipes de scénaristes se mettre en place. Il y a un scénariste italien, un ou des scénaristes italiens, parce qu'en Italie, les scénarios s'écrivent souvent à plusieurs mains, et puis un ou deux scénaristes français qui participent. Et puis ensuite, évidemment, il y a le problème des acteurs, mais ce problème des acteurs, je vais rapidement y venir, parce que ce sera l'aspect le plus visible dans cet iceberg que sont les coproductions et les associations entre les Français et les Italiens. Quoi qu'il en soit, je répète, les Italiens tirent un meilleur profit de ces coproductions et le législateur va à plusieurs reprises, principalement d'ailleurs à la demande des Français, essayer de trouver des parades pour faire en sorte, à un moment donné, on a même imaginé qu'on ne pourrait plus lancer une coproduction italo-française dans ce qu'on a imaginé comme étant des films jumelés, s'il n'y avait pas parallèlement une coproduction franco-italienne qui serait mise en place au même moment. Une espèce de recherche quasi impossible qu'on pouvait facilement l'imaginer, de stricte parité entre les intérêts des uns et les intérêts des autres. Ça ne va pas fonctionner, ça ne fonctionnera jamais. Et finalement, à partir de la seconde moitié des années 70, le système va entrer en crise. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est un peu comme l'Europe de Gaulle, hein, l'Europe. Aujourd'hui, quand on parle avec des responsables italiens, français, mais surtout italiens, on a tendance à dire les coproductions, comme voie, et semble-t-il, seule voie possible pour sortir le cinéma italien des difficultés dans lesquelles il se débat. Car incontestablement, même si la situation n'est peut-être pas aussi catastrophique que quelquefois on l'imagine vu de France, il n'empêche que le cinéma italien connaît au plan des financements plus de difficultés que le cinéma français. Et du côté des Italiens, il va encore y avoir début décembre une rencontre à Paris, à la mi-décembre au Balzac, autour de ces thèmes. Les Italiens continuent à être demandeurs de ce que l'on retrouve le moyen de remettre en place ces coproductions qui ont apporté au cinéma italien une bouffée d'oxygène, bien plus que d'ailleurs qu'une bouffée d'oxygène, lui ont apporté un carburant considérable. Ces coproductions, donc, se sont traduites par des résultats éminents, d'abord quantitativement, puisque ce sont environ 2000 films qui sont coproduits au long d'environ 50 ans de coproduction, ce qui est un chiffre absolument considérable, ce qui veut dire aussi qu'à certains moments, plus de la moitié de la production italienne était réalisée dans le cadre de coproductions. Et même dans des films dans lesquels, finalement, la présence de la coproduction n'est pas forcément extrêmement visible. Il n'y a pas forcément des éléments qui permettent de repérer instantanément qu'on a affaire à une coproduction. Alors qu'en réalité, il s'agit effectivement de films dans lesquels il y a de l'argent français. Au début des années 70, ces coproductions vont d'ailleurs donner aussi des résultats dans la présence du film italien en France, en général d'ailleurs des films de coproduction majoritaire italienne, puisque ces films italiens réussissent au début des années 70 à atteindre le point culminant d'obtenir 12% de parts de marché. Les films italiens représentent 12% du marché français au début des années 70. Je vous signale qu'aujourd'hui, c'est moins de 1%. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins qu'il y a quelques années où ça finissait par s'exprimer en 0,1 ou 2%. Aujourd'hui, c'est un peu plus, mais on reste quand même dans des chiffres qui sont très faibles, même si le nombre de films italiens qui sortent en France a augmenté au cours de ces dernières années. Mais bien souvent, au cours de ces trois dernières années, le seul film qui a vraiment très bien marché en France, c'est Habemus Papam de Nanni Moretti, qui a fait plus de 700 000 spectateurs. Mais les chiffres d'entrée, en général, sont beaucoup plus faibles que ça, quand il ne s'agit pas de films que les Italiens appellent des films di nicchia, des films de niche, qui n'intéressent qu'un tout petit secteur ARS du public. Alors, l'aspect le plus visible, j'y faisais allusion tout à l'heure, ce sont les acteurs, et notamment les couples franco-italiens. Alors, pour le plaisir, je vais en citer un certain nombre. Peut-être que le film fondateur, qui obtient d'ailleurs un Oscar à Hollywood, c'est Au-delà des grilles, Les Mura di Malapaga, en 1949, de René Clément, qui associe Jean Gabin et Isa Miranda. Gabin va d'ailleurs voir sa carrière relancée par ce film. Isa Miranda est plutôt en fin de carrière, même si c'est une grande star en Italie. Donc ce film en 49. Des films moins connus, Aldo Fabrizi et Gabi Morlet dans Prima Comunione, qui est distribué en France sous le titre curieux de sa Majesté Monsieur Dupont, parce qu'il s'agit d'un personnage qui règne sur sa famille comme un monarque, donc le titre français Sa Majesté Monsieur Dupont, Prima Comunione de Blasetti avec, je répète, Aldo Fabrizi et Gabi Morlet. Bon, en 52, il y a l'énorme succès en France qui est Fanfan la Tulipe, avec Gérard Philippe et Gina Lollobrigida. On aura en 54 le film de Jean Grémillon, L'amour d'une femme, avec Massimo Girotti et Micheline Prel. Montand et Mangano dans Uomini e Lupi, François Perrier et Giulietta Masina dans Les Noti di Cabiria, François Perrier et Sandra Milo dans La Visita de Pietrangeli, Jacques Perrin et Claudia Cardinale, bien entendu, La fille à la valise, La ragazza con la valigia, Mastroianni et Jeanne Moreau dans La nuit d'Antonioni. Nous aurons d'ailleurs également l'éclipse Alain Delon et Monica Vitti, Mastroianni et Catherine Deneuve dans La Cagna de Marco Ferreri, Belmondo et Sofia Loren dans La Ciociara, Belmondo et Claudia Cardinale dans La Viaccia de Mauro Bolognini, Micheline Prel et Mastroianni, L'assassino de Petri, Alain Delon, évidemment un des plus célèbres, Alain Delon et Claudia Cardinale dans Le Guépard. Enfin bon, la liste pourrait être prolongée à l'infini. Et on pourrait d'ailleurs également ajouter que finalement, quand on regarde la carrière d'un certain nombre d'acteurs, on s'aperçoit que leur carrière italienne a été considérable. Jean-Louis Trintignant, qui est beaucoup sur la sellette en ce moment, avec la sortie de Amour, j'ai eu le plaisir de collaborer à un documentaire qui lui est consacré, qui s'appelle Trintignant l'Italien, qui parcourt simplement sa carrière italienne, et qui est considérable, hein, de Dino Risi avec Le Fanfaron, à Zurlini, à Bolognini avec Le Conformiste, enfin bon, c'est vraiment à Scola, où il a également beaucoup joué pour Scola. Donc, et le cas de Trintignant n'est absolument pas un cas isolé, et ce sera vrai également pour les comédiennes, hein, que l'on pense à la carrière italienne de Marina Vladi, de Girardot, d'Anouk Aimée, de Magali Noël, de Catherine Deneuve, de Micheline Prel, de Dominique Sanda, de Jeanne Moreau, enfin, bon. Alors, si on s'interroge, j'ajoute aussi qu'il y a eu, là j'ai parlé uniquement des couples hommes-femmes, si l'on pense à d'autres situations, il y a quand même également des couples hommes-hommes qui ont laissé des traces considérables, et quand même 52, Don Camillo. Hein, Don Camillo, c'est tout de même Fernandel et Gino Cervi qui se donnent la réplique avec le bonheur que l'on sait. Fernandel et Toto dans La Loi, c'est la loi de Christian Jacques. Gassman Trintignant, Il Sorpasso. Delon Salvatori dans Rocco et ses frères. Citti Terzieff dans Ostia de Sergio Citti. Sordi et Blié dans Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa. C'est une manière de reprendre les titres des livres à feuilleton. Et même Amici miei, plus récent, où l'on voit côte à côte Tognazzi, Gastone Moschini, Adolfo Celli, Philippe Noiret et Bernard Blier. Si on regarde ce qu'il en est du côté des acteurs italiens tournant en France, eh bien, on ne trouve pas du tout la même parité, pas du tout. Alors que les acteurs français qui ont fait carrière en Italie, et souvent, je répète, une part importante de leur carrière en Italie, ils sont légion. Si on pose la question sur quels sont les acteurs italiens qui ont fait une longue carrière et qui ont tourné à de nombreuses reprises en France, on n'a absolument pas la parité, mais alors vraiment pas. Et peut-être que le seul acteur qui a beaucoup tourné en France, c'est Mastroianni, mais c'est pratiquement le seul. Alors, je me suis beaucoup interrogé là-dessus, pourquoi ça ne circule pas. Et en fait, il y a une réponse extrêmement simple, qui repose sur le mode de fonctionnement technique des tournages. En France, on tourne en son direct. En France, on a l'habitude de tourner en son direct, c'est-à-dire que les comédiens jouent sur le plateau ou même en extérieur. Et en extérieur, évidemment, ça pose parfois des problèmes de prise de son qui conduisent, dans des cas extrêmes, à refaire le son en studio. Mais a priori, on essaie, même en extérieur, de tourner en son direct. En Italie, au contraire, on double. Hein, en Italie, on double. On ne prend sur le plateau qu'un son témoin, hein, qu'on va garder comme guide. Mais c'est un son témoin qui ne sera pas conservé. D'ailleurs, le plateau italien, pour être allé un certain nombre de fois sur des plateaux italiens, c'est assez étonnant. Quand on est passé plus rarement, dans mon cas, sur des plateaux français, il y règne la confusion sonore la plus totale. Hein, c'est-à-dire, il y a du bruit, le metteur en scène peut donner des consignes pendant la prise de vue. Les photographes de plateau qui, en France, surtout avec l'apparition des appareils à miroir, des réflexes, où vous avez le bruit du miroir qui s'escamote pour que la pellicule puisse être impressionnée, ça fait un bruit assez important. En Italie, les photographes de plateau prennent des photos pendant la prise de vue. Et pendant la prise de vue, vous entendez flac, 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 ça n'arrête pas. Bon, tout ça ne gêne personne. Pourquoi ? Parce que le son n'est pas destiné à être le son que l'on va conserver. Mais alors, de cette habitude technique va dériver quelque chose d'essentiel, dont on n'a peut-être pas toujours mesuré l'importance, c'est que les acteurs français, lorsqu'ils tournent en italien, qu'est-ce qu'ils interprètent ? Des personnages italiens. Les acteurs français deviennent italiens. Et vous passez en revue tous les titres que j'ai déjà évoqués, passez-les tous, pensez à tous les titres que vous voulez. Hein, Rocco, c'est un italien, hein, que je sache. Hein. Trintignant, c'est un étudiant italien. Belmondo, dans la Viaccia, il fait un paysan des collines autour de Florence, du domaine de la Viaccia. Hein. D'ailleurs, par parenthèse, le titre ne désigne pas le mauvais chemin, mais le nom de la propriété, la Viaccia. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut un V majuscule, alors qu'en italien, normalement, les titres s'écrivent tout en minuscules. Dans la Ciociara, il fait un instituteur italien, aux côtés de Sofia Loren. Bon, ils font tous des Italiens. Mais alors, on s'est souvent, à titre anecdotique, un peu moqué de Fellini. Et on le voit dans des films tournés sur les plateaux de Fellini, qu'il fait dire à certains de ses comédiens des chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, juste pour que le comédien bouge les lèvres et qu'on puisse ensuite le doubler facilement. Mais en réalité, les autres acteurs, ils disent peut-être pas des chiffres, Mais ils disent quelque chose qui ne sera pas conservé. Les acteurs français, il ne faut pas imaginer qu'on les fait jouer en italien. Ils jouent en français sur les plateaux. Mais ça n'a aucune importance. Puis, de toute façon, ils seront doublés. De toute façon, même les Italiens sont doublés. Hein. Donc, non pas que les Italiens eux-mêmes vont se doubler. Et d'ailleurs, pas toujours par le titulaire du rôle. Hein, qui parfois peut être pris par autre chose. Toto, par exemple, avait une doublure officielle qui était une sorte d'imitateur de Toto. Toto n'avait pas le temps d'aller ensuite en studio se doubler. Donc une bonne partie des films de Toto sont en réalité doublés par une doublure vocale, hein, qui est un imitateur. Parce que Toto, vous savez, a des journées extrêmement chargées. Il tournait dans la journée, le soir, il se produisait au théâtre. Donc quand il avait le temps, il faisait les doublages. Quand il n'avait pas le temps, c'était quelqu'un qui le faisait à sa place. Cardinal, c'est pour une autre raison, mais tous les premiers films de Cardinal sont doublés parce qu'on trouvait qu'elle avait une voix trop rock et qui n'était pas radiophonique, donc elle est doublée. Bon. Mais très tardivement, hein, dans Le Guépard, elle est doublée. Donc cette faculté qu'ont les Italiens de pouvoir utiliser, d'ailleurs là-dessus Scola a parfois déclaré, mais pour moi, quand je dirige Bernard Blier, qu'il a dirigé plusieurs fois, pour moi, il me dit, c'est comme si j'avais en face un acteur italien. Je ne vois pas du tout un acteur français, je vois un italien. Et donc, cela va permettre au cinéma italien d'utiliser en quelque sorte un bassin de population actoriale extrêmement large. Et comme nous allons le voir dans la dernière partie de mon intervention, ça va jouer pour d'autres nationalités. Ça va également jouer pour les Américains. Pour les Américains, de la même façon. Alors, les Américains, ils sont arrivés en Italie de deux façons. Bon, ils sont d'abord arrivés parce qu'on avait besoin d'eux dans les films qu'on tourne dans l'immédiate après-guerre. En Italie, on a besoin, comme apparaissent dans certains épisodes représentant la guerre, où dans certains épisodes de l'immédiate après-guerre, il y a en Italie des troupes américaines qui sont stationnées en Italie. Et on a donc besoin pour certains rôles, et là il est difficile de faire jouer par, même si après on va le doubler, il est difficile de faire jouer ces personnages par des Italiens. Donc on va voir apparaître un certain nombre, par exemple Rossellini, il dirige un acteur qui s'appelle Dodds Johnson, dans l'épisode napolitain de Païsa, ou Gar Moore dans l'épisode romain. La même année, Luigi Zampa fait appel à Leo Dale pour Un Americano in Vacanza, un Américain en vacances. Zampa reprendra l'année d'après Gar Moore dans Vivere in Pace, et on aura même un acteur noir qui s'appelle John Kitzmiller, qui va faire une petite carrière italienne dans un certain nombre de films où il joue toujours le même rôle, celui d'un GI démobilisé. On va le trouver dans Tombolo Paradiso Nero de Giorgio Feroni, dans Senza Pietà d'Alberto Lattuada, et on le voit passer dans Luci Tirol de trompettiste, dans Luci del Varietà de Fellini et Lattuada. Bon. Donc là, ce sont encore des Américains qui jouent des rôles d'Américains, quoi. Mais assez rapidement, ils vont jouer eux aussi des rôles d'Italiens, soumis dans le fond à la même utilisation que les acteurs français. Alors, je rappelle que voilà mon téléphone que j'ai oublié d'éteindre, mais voilà, ça y est, excusez-moi. Je rappelle que les Américains sont arrivés en Italie aussi pour d'autres raisons. Il y a un film qui a joué, qui a en quelque sorte joué un rôle déterminant, c'est le film de Mervyn LeRoy, Covadis, que les Américains viennent tourner en Italie parce que les coûts de fabrication sont nettement moins chers, la construction des décors. Donc le film avec Deborah Kerr, Robert Taylor et Peter Ustinov et Leo Jen, un acteur anglais, et Amen prend l'habitude, alors après il y a quantité d'autres films, comme je n'ai pas le temps, je ne les énumérerai pas. Je souligne simplement en passant que par exemple, lorsque les Américains tournent Covadis à Rome, ils construisent d'immenses décors, et avant même que le film de Mervyn LeRoy soit sorti, Mario Soldati tourne Occhi Neri, dans des décors absolument incroyable. On dit comment pour une comédie il a pu construire de pareils décors. En réalité, il utilise les décors de Covadis et ensuite, par contrat, les Américains exigeront que lorsqu'ils tournent à Cinecittà, lorsque le film est terminé, on détruit les décors. Hein. Parce que O'Kenneron sort et en quelque sorte déflore l'ampleur de ces décors que le public était censé découvrir que lors de la sortie de Covadis. Bon, alors je terminerai là-dessus en disant que un certain nombre d'acteurs américains sont d'abord arrivés en Italie pour y jouer dans des productions américaines qui utilisent d'ailleurs une des raisons de l'arrivée de ces productions américaines qui sont pas des coproductions d'ailleurs, sont des productions américaines. Ce sont des productions américaines qui utilisent l'argent encaissé par les films américains lors de leur exploitation en Italie, puisque un pourcentage important de l'argent gagné par les films américains en Italie ne pouvait pas être rapatrié, devait être dépensé sur place. Donc on le dépense sur place en tournant des films américains à Rome. Et ça ira jusqu'à Cléopâtre, qui est un autre. Bon, alors à partir de 1953, dans Senso de Visconti utilise Farley Granger, qui est un acteur américain qu'on avait vu notamment chez Hitchcock, hein, qui vient de tourner, qui joue le rôle. Alors il joue pas encore le rôle d'un Italien, il joue le rôle d'un Autrichien. Mais ensuite, nous avons le cas le plus célèbre peut-être, qui va inaugurer une très longue série d'interventions d'Américains. C'est en 1954, La Strada. Zampano, c'est Anthony Quinn. Et alors, quel est le rôle d'Anthony Quinn? C'est un Italien. Hein? Et désormais, donc, ces Américains jouent des rôles d'Italiens, et sans reprendre la même liste que je donnais tout à l'heure à propos des Français, on peut encore citer Broderick Crawford dans Il Bidone, mais on va finalement aboutir à peut-être le sommet de ce melting pot, et je terminerai là-dessus, de ce melting pot, c'est le Guépard, où Burt Lancaster vient jouer le prince Salina. Et dans la version italienne, il est doublé avec un fort accent sicilien par un acteur sicilien qui le double. Donc on arrive finalement à cette situation assez paradoxale que quelques icônes du cinéma italien sont en fait portées par des acteurs étrangers. Hein, que l'on pense à Rocco, c'est Alain Delon, que l'on pense à Don Camillo, c'est Fernandel, que l'on pense au prince Salina, c'est Burt Lancaster, que l'on pense à Zampano, qui pour moi reste le modèle absolu, c'est Anthony Quinn. Donc on peut peut-être mesurer par là qu'une partie de cette puissance du cinéma italien dans les années 50-60 a été justement cette capacité à utiliser non seulement probablement un parc d'acteurs nationaux de très grande qualité, hein, que ce soit les stars qui deviennent ensuite Sophia Loren, qui deviennent des stars internationales, ou chez les hommes Gassman, Tognazzi, Manfredi et bien entendu Mastroianni, hein, mais aussi de pouvoir utiliser deux parcs complémentaires très largement utilisés et souvent à plusieurs reprises, de la même façon que un certain nombre d'acteurs français, je disais tout à l'heure, ont fait une grosse partie de leur carrière en Italie, un certain nombre d'acteurs, Anthony Quinn a beaucoup joué en Italie, et même Lancaster revient vers la fin de la vie de Visconti pour tourner Violence et Passion, mais là par contre le film est tourné en anglais, le film est tourné en son direct, c'est entièrement tourné en studio, c'est tourné en son direct, et la version originale de Violence et Passion, d'ailleurs celle qui est ressortie dans les salles il y a quelques semaines en France, c'est la version en langue anglaise, parce que c'était Mangano jouait en anglais et les autres comédiens jouaient en anglais. Mais donc c'est peut-être par là que s'explique, par cette possibilité technique de doubler et de prendre les acteurs étrangers pour en faire des Italiens, qu'en partie s'explique sans doute cette formidable explosion de créativité qu'a connu le cinéma italien entre la fin des années 40 et la fin des années 70. Merci.